Chapitre 12 du roi de la cité merveilleuse, la foire. Il y avait le mouvement et l'agitation habituels à une foire. On entendait de tous côtés des cris variés, de la musique et des rires. Des enfants en habits de fête allaient d'une attraction à l'autre, se donnant le vertige et le mal de mer sur des gais carrousels, poussant des cris de joie autour d'une cage de singes ambulants, s'aventurant auprès d'un pauvre ours qu'on traînait au bout d'une chaîne, en lui faisant faire des tours qui ne l'amusaient pas du tout. Des hommes et des femmes à la peau noire et ayant l'air de bohémiens vendaient un choix de bijoux étonnamment brillants et bon marché. Plus loin, un homme étalait des livres aux gravures et aux titres aguichants. Dilecta circulait avec l'essaim d'enfants, tantôt dans un groupe, tantôt dans un autre, s'amusant de tout. Cependant, à mesure que la journée s'écoulait, elle s'attristait de penser qu'elle ne devait pas rester pour le grand événement de la soirée et s'effrayait quelque peu de la possibilité de ne pouvoir échapper. La pauvre petite comprenait maintenant sa faiblesse et avait peur d'elle-même. Bien des fois dans cet après-midi, elle se tourna vers le robuste ami qui se tenait à ses côtés et le supplia d'être très près au moment de la lutte. En flânant et en examinant le brillant étalage de livres, la fillette se sentit doucement tirée en arrière, comme si un danger invisible était tout proche. Quel pouvait-il être? Elle ne voyait que l'homme criant sa marchandise et appelant les acheteurs. Tout à coup, elle aperçut quelqu'un qui n'était pas un étranger. En vérité, il venait dernièrement de se montrer plus importun qu'à l'ordinaire, se faufilant parmi les livres, les ouvrant çà et là, en laissant de côté, s'arrêtant sur d'autres. C'était Malinus. « Que fait-il là ? » demanda-t-elle au prince gardien. « Il est à ses affaires. Quelques-uns de ses livres lui appartiennent. Malinus a aidé les hommes et les femmes qui les ont écrits et il y a mis sa marque. Ses livres feront son œuvre et il sera tout prêt quand garçons et fillettes les prendront pour y trouver de l'amusement. » Vous devez avoir constaté dès à présent que Malinus avait des façons variées de nuire au sujet du roi. Par l'un ou l'autre de ses manèges, il arrivait à bout parfois de blesser les plus prudents. Mais bien sots étaient ceux qui tombaient à plusieurs reprises dans les mêmes pièges, car ils savaient comment les reconnaître quand ils venaient sur leur route. « Comment ? » demanderez-vous. Malinus n'était pas toujours visible? Il préférait évidemment les ténèbres à la lumière pour ses besognes. De quelle manière donc pouvait-on savoir qu'il était sur les lieux? Il y avait certains indices. Un tourbillon vous dépasse sur un chemin à la campagne. Vous devinez que ce doit être une automobile au bruit et à la rapidité avec lequel elle fond sur vous, à la hâte avec laquelle les gens sensés s'en écartent, aux nuages de poussière qu'elle soulève et à l'affreuse odeur qu'elle laisse derrière elle. Partout où allait Malinus, l'atmosphère empuantée et une brume subite, semant la confusion et le trouble, montraient qu'il n'était pas loin. Les personnes sages étaient arrivées à noter ces signes et se tenaient sur leur garde lorsqu'il apparaissait. Malinus s'avançait en souriant et offrait de mauvais bonbons étincelants de sucre aux petits enfants. Il saupoudrait les livres de poudre empoisonnée, de façon que les lecteurs s'en ressentissent toute la vie, ou fussent tués net en les feuilletant. Quelquefois, il tendait des pièges pour faire trébucher des gens. Il luttait lui-même avec les enfants, ou chargeait leurs compagnons de le faire pour lui. Mais il rôdait toujours sur les lieux, afin de voir quel mal pouvaient causer ses paroles doucement chuchotées ou ses coups cruels. Assez souvent, surtout lorsqu'il s'adressait à ceux qui voulaient rester les fidèles soldats du roi, Malinus se contentait de les effrayer en leur faisant croire qu'il violait les lois du roi quand ce n'était pas vrai. Il se frottait les mains de satisfaction s'il avait fait pleurer un petit enfant. Il aimait à en désappointer un autre, lui promettant une chose qu'il n'avait point l'intention de donner ou qui, donnée, lui ferait du mal. Vous trouverez honteux que quelqu'un d'aussi fort et d'aussi intelligent ne rougisse pas de se battre avec un enfant. C'était honteux. Mais les poltrons n'ont pas facilement honte. Et si jamais il y eut poltron au monde, c'était Malinus. Un enfant pouvait le faire se sauver de peur. Un gros chien qui a été blessé d'un coup de pierre fuit devant un petit enfant qui se baisse simplement en ayant l'air de ramasser un caillou. Malinus était ainsi. D'entendre le nom du roi sortir des lèvres d'un baby, il tremblait comme une feuille. Mais retournons à la foire. Dilecta vit les princes gardiens suivant les enfants qui leur étaient confiés, d'une attraction à une autre, de temps en temps empêchant qu'il ne leur arrivât malheur de l'une ou l'autre des nombreuses manières qui s'emploient aux foires. Il était près de 8 heures. Se frayant un passage à travers une foule d'enfants qui contemplaient avec des démonstrations de joie folle les gambades de quelques singes dressés, Dilecta tomba sur 2 ou 3 fillettes de la bande parées de bagues, de colliers et autres que lui fichaient que Marguerite leur avait achetées. Elles regardaient de tous côtés comme à la recherche de quelqu'un. Dès qu'elles aperçurent Dilecta, elles crièrent aux autres derrière elles « La voilà !» Et en un instant, Dilecta fut fait prisonnière. « Inutile de te débattre, Flo. Il faut absolument que tu restes. Ce sera très beau et vraiment passionnant. Un vrai naufrage à la première scène. » « N'insiste pas, s'écrie une voix moqueuse. Les saints ne vont jamais voir des naufrages. Ce ne serait pas bien. » Dilecta rougit violemment. « Je vous ai dit que je n'étais pas une sainte, mais je ne resterai pas quand même. » Nous te demanderons de rester qu'à la première scène. Tu as toujours tant désiré voir la mer. Eh bien, c'est aussi saisissant. Une véritable tempête avec les vagues soulevées, le tonnerre et les éclairs, et le bateau qui coule, et tout le monde sautant à l'eau et essayant d'arriver au cadenas de sauvetage. Pendant ce temps, elles avaient entraîné leurs captives jusqu'à la porte. Et la foule se refermait derrière elles. Elles remarquèrent qu'elles ne se débattaient plus autant qu'au début, et l'une d'elles crut qu'elle murmurait « Eh bien, alors seulement pour la première scène. » « Nous avons retenu de très bonnes places !» s'écrie Marguerite. « Oh, Flo, comme tu es jolie !» Dilecta était serrée entre 2 geôliers. La salle se remplissait vite, elle se remplissait jusqu'à l'asphyxie. L'horloge sonna 8 heures. Tous les yeux étaient fixés sur le rideau. « Dilecta, dit le prince gardien, tu ne devrais pas être ici, viens avec moi. »« Que faire? Ils vont commencer et je ne peux pas sortir de là. »« Viens avec moi. »« Aidez-moi alors, oh, aidez-moi !» Il y eut un mouvement dans la foule. Juste derrière eux, une femme s'était évanouie et on l'emportait. Dilecta suivit. Comme elle n'a jamais pu le dire. Mais au bout de quelques minutes, l'air frais lui soufflait au visage. La foire était déjà loin et l'enfant se trouvait sur le chemin du logis. Ce soir-là, Dilecta s'étonna de voir que la lumière de la lampe de paix était extrêmement brillante. Elle avait manqué le divertissement sur lequel elle comptait depuis si longtemps. Toutefois, elle avait trouvé un bonheur jamais éprouvé auparavant. Une satisfaction infiniment au-dessus de tout le plaisir que la représentation eût pu lui procurer. « Ça va finir maintenant, se dit-elle, quand après un court sommeil, elle s'éveilla et se mit à réfléchir à quel point elle avait failli être prise au piège tendu pour elle et à ce qu'elle devait à l'ami fidèle qui l'avait avertie et sauvée. Dilecta ne put se rendormir. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. Il était environ minuit. Il n'y avait pas d'étoiles. La nuit était silencieuse, à part de temps en temps l'explosion d'une fusée partant du centre des réjouissances de la foire. Tout à coup, une flamme rouge surgit dans le ciel, puis une autre et une autre. et la fillette s'imaginait entendre des cris. Pendant quelques instants, le ciel s'embrasa dans la direction de la foire. Ensuite, les flammes baissèrent peu à peu et tout redevint calme. Le cœur de Dilecta battait violemment. Elle se tourna vers le prince gardien. « Qu'est-ce donc ? Qu'est-ce que cela veut dire ?»« Cela signifie, Dilecta, qu'un incendie a éclaté dans la salle de spectacle et que beaucoup de ceux qui étaient allés pour s'amuser traversent en ce moment la sombre vallée et se rendent à la terre d'où l'on ne revient plus. » Le lendemain matin, la nouvelle se répandit aux alentours qu'au milieu de la représentation, le théâtre monté à la hâte avait pris feu. Une panique suivit et de nombreux spectateurs, en se précipitant vers l'unique porte de sortie, périrent. Marguerite et ses compagnes, sauf une, étaient au nombre des victimes. Lorsque Dilecta rencontra le roi ce jour-là, son cœur était plein de pensées diverses. Elle se jeta à ses pieds pour le remercier de lui avoir épargné le sort terrible réservé à d'autres, et il répondit « Apprends à mettre toujours ta confiance en moi. Crois que mes commandements ont pour but de te préserver du mal. Dis à présent ce que tous dans la terre heureuse répètent dans des transports de joie et de reconnaissance en se rappelant ma conduite dans la terre d'exil. Il a bien fait toutes choses. » Chapitre 13 du roi de la cité merveilleuse. La petite fille apprend quelques leçons. Dilecta devenait plus sage et plus courageuse. Elle commençait à remarquer qu'elle n'était pas plus heureuse lorsqu'elle ne pensait qu'à se contenter elle-même. Tout d'abord, peut-être, il y avait un peu de plaisir. Mais cela passait bien vite, et à la place venait le désappointement et la tristesse qui la rendait bourrue et désagréable aux autres. C'était une bonne chose qu'elle eût fait cette découverte, car cela l'aida à dire non à soi, quand elle eut à se décider entre ce qui était mal, mais tentant, et ce qui était bon, mais pénible. Ce n'est pas que Dilecta choisit toujours bien. Oh mon Dieu, non. Très souvent, soi obtenait ce qu'elle désirait. Et le prince gardien était obligé de s'éloigner mécontent parce que Dilecta ne voulait pas écouter ses avertissements. Avant qu'elle ne commît une faute, Malinius lui affirmait que c'était fort peu de choses. Cela n'importait guère en réalité. Le roi ne serait pas très fâché contre sa petite amie et ne lui interdirait pas l'entrée de la cité. Elle se repentirait de ce qu'elle avait fait tout de suite après. Et le roi pardonnerait. D'autre part, son prince gardien la réprimandait, disant que les petites choses ont de l'importance et que si Dilecta prenait l'habitude de désobéir au roi dans des choses insignifiantes, elle pourrait un jour violer sa loi d'une façon grave et l'irriter sérieusement contre elle. Quand, en dépit de ses avertissements, Dilecta faisait les malles pour se contenter, voyez ce qui arrivait. Le méchant, après avoir soutenu que ce n'était qu'une bagatelle à laquelle le roi n'accorderait aucune attention, se tournait alors contre l'enfant en l'appelant une misérable petite ingrate. Le roi ne pouvait pas l'aimer, s'écriait-il. Elle mentait en prétendant regretter ses fautes. Elle le lui avait répété des centaines de fois avec de belles promesses. Le roi en était fatigué. Inutile désormais d'essayer de lui plaire. Dilecta ferait aussi bien d'y renoncer et de prendre son plaisir. Quant au prince gardien, quelle était son attitude quand, ayant repoussé ses conseils, elle s'était rendue malheureuse? Le lui reprochait-il vertement en disant que ce n'était pas la peine d'essayer de se corriger? Mon enfant, murmurait-il doucement, tu viens de commettre une faute en ne m'écoutant pas. Ne l'aggrave point en écoutant Malinus qui cherche à te décourager et à te désoler. Notre cher roi est très bon, très indulgent. Il sait que sa petite Dilecta veut réellement l'aimer et lui plaire, mais qu'elle est très faible. Montre-lui ton chagrin. Dès que tu t'aperçois que tu fais ce qu'il n'aime pas, arrête-toi. Dis-lui que tu regrettes de t'être conduite ainsi et il te pardonnera. Alors reprends ta vie habituelle. Essaie de faire comme si tu n'avais jamais contristé le roi. Agis de cette manière aussi souvent que tu tombes dans une faute. Relève-toi tout de suite, comme tu le ferais si ton pied glissait en travers un chemin. Tu ne resterais pas là, pleurant jusqu'à ce qu'une automobile vienne t'écraser. Mais si tu sauterais immédiatement sur tes pieds et tu te remettrais à marcher, sans guère te ressentir de ta chute, qui peut-être même te servirait à te rendre plus attentive à l'avenir. Maintes et maintes fois Dilecta dut se rappeler cette leçon. Elle n'est pas aussi facile à apprendre que vous pourriez le croire. Ses maîtres trouvaient souvent Dilecta insupportable. Elle était entêtée, insouciante et surtout combien paresseuse. Le petit poulain échappé n'aimait pas qu'on lui mît le harnais et qu'on le fît travailler. Lorsque ceux qui avaient la charge de la fillette la grondaient, elle ne réfléchissait point qu'ils tenaient la place du roi et qu'ils étaient obligés de la reprendre si elle désobéissait à ses commandements et se conduisait d'une façon qui ne convenait pas à une personne destinée à être une princesse de la cour. Elle croyait qu'ils ne l'aimaient pas et leur rendait la pareille. Ou, pire encore, elle boudait, de sorte qu'il était très difficile pour eux de savoir comment la former. Puis, quand l'accès de méchanceté était passé et qu'elle le regrettait, Dilecta avait envie de faire la moue et de déclarer qu'elle ne serait jamais princesse. Elle luttait contre ce découragement et essayait de se conduire comme son prince gardien le lui avait conseillé, mais c'était pénible. Chapitre 14 du roi de la cité merveilleuse. Ce que le roi aimait dans la petite fille. Je vous ai raconté plusieurs fautes de la petite fille. Il est bien juste aussi que je vous parle de ses bons côtés. Elle était très sincère. Je crois que c'est surtout ce qui avait charmé le roi. Il était lui-même si franc et si vrai qu'il ne pouvait pas s'accorder avec des gens dont la bonté n'était qu'apparente, qui ne se montraient appliqués que lorsqu'on les observait, qui, croyant que certaines personnes tenaient la place du roi, les trompaient cependant dès qu'elles avaient le dos tourné. C'est à cause de la droiture de Dilecta que le roi l'aimait. Il lui avait déclaré dès le début qu'il voulait connaître tout ce qui la concernait, ses joies, ses peines, ses luttes et ses efforts. Elle lui disait, quand il venait dans sa cabane où ils étaient bien tranquilles, tout ce qui s'était passé depuis la dernière visite, tout ce qu'elle avait en tête, et il la savait sincère. Tout l'intéressait, chaque petite douleur ou souffrance, le plus léger embellissement dans la cabane, chaque leçon difficile que l'enfant avait essayé d'apprendre pour l'amour de lui. Un jour, on rapporta au roi que Dilecta s'était montrée plus turbulente que d'ordinaire et qu'elle avait trépigné de dépit contre un de ses maîtres. « Oui, dit-elle, je l'ai fait. Et tu ne m'en as jamais parlé ?» Les yeux pleins de bonté plongeaient au fond de ceux de la fillette. « Raconte-moi cela maintenant, dit-il. Je voulais aller voir des tableaux et l'on a refusé de me le permettre parce qu'il n'était pas convenable pour une princesse. Alors je me suis fâchée. Comme je ne réussissais pas mes problèmes, je devenais de plus en plus grognon. Et le soir, ayant eu un devoir à recommencer, j'ai frappé du pied. Pourtant, j'ai fait des efforts toute la journée, je vous l'assure. Je voulais frapper du pied le matin, mais je me suis retenue. Et quand je manquais les problèmes, je ne l'ai pas fait non plus. À la fin, le soir, je ne me suis plus retenue. Ainsi, tout cela ne sert de rien. Il est inutile que j'essaie d'être sage. » Dilecta regardait le roi d'un air piteux, mais il sourit. « Tu as fait des efforts toute la journée, » interroge-t-il. « Oui. » « Et le soir seulement, tu t'es laissé aller ?»« Oui. » « Et crois-tu que je vais être irritée contre toi ou désappointée lorsque tu as combattu pour moi toute la journée et n'as perdu du terrain qu'un seul instant ?»« Mon enfant, tu as été un brave petit soldat qui mérite non pas les reproches mais les récompenses. Continue tes efforts. » Et un jour, je serai fière de toi. Dilecta leva de nouveau les yeux et cette fois elle souriait. « Désirez-vous, cher roi, que je continue à vous parler de mes mauvais jours ? Je croyais que vous ne teniez à connaître que les bonnes choses que je fais pour vous plaire. » « Les jours de bataille, Dilecta, ne sont pas de mauvais jours, même si tu es vaincu de temps en temps. Je suis avec mes soldats lorsqu'ils tombent, aussi bien que lorsqu'ils combattent. Quand ils tombent, je les plains et les aide à se relever. Et s'ils sont grièvement blessés, je panse moi-même leurs blessures. Repens-toi dès que tu affaiblis devant l'ennemi. Confie-toi en moi et en mon secours. » Tu te fortifieras chaque fois que tu feras un effort. C'est pour t'aider à devenir robuste que je viens te voir souvent. Seul, tu es très faible. Mais toi et moi sommes plus forts qu'il ne faut contre l'ennemi. Chapitre 15 du roi de la cité merveilleuse. Comment le roi trouva un jour Dilecta triste. À l'une de ses visites, le roi trouva la petite fille triste. Et il voulut en connaître la cause. D'abord, elle était honteuse d'avouer ce qu'elle avait dans l'esprit, mais elle finit par s'y décider. « Cher roi, je croyais que vous m'aviez dit que vous m'aimiez de tout votre cœur. En effet, Dilecta, je ne fais rien à moitié. Mais vous en aimez d'autres aussi, et il y aura d'autres princesses que moi dans la cité. » Tu étais assise en plein soleil ce matin, Dilecta. As-tu envié sa chaleur aux petites amies qui t'entouraient ? Oh non, il y en avait assez pour nous toutes, et d'ailleurs j'étais enchantée qu'elles fussent contentes aussi. Je suis bien aise de voir heureux ceux que j'aime. Si tu m'aimes, tu aimeras mes amis. Mon amour est tel que le soleil, il est pour tout le monde, et en même temps il est tout entier pour ma petite Dilecta, comme s'il n'était qu'à elle seule. Il ne faut pas qu'elle soit égoïste, il faut qu'elle aime ceux qui me sont chers, et qu'elle les aime pour l'amour de moi. Puisqu'ils ont des places dans ma cité et que je les y attends, Dilecta doit essayer de les aider de tout son possible. « Y a-t-il beaucoup de princesses qui vous aiment plus que moi ? » demanda-t-elle timidement. Le roi sourit. « Ton amour n'est pas encore bien fort, dit-il, mais il m'est précieux, et chaque fois que je viens te voir, je le fortifie. Parlez-moi de ceux qui vous aiment plus que moi. » « Il y a une enfant, répond-il, qui ne me refuse jamais rien de ce que je lui demande et qui a peur de me déplaire ou de me désappointer plus que de tout ce qu'elle peut souffrir. Elle me répète souvent qu'elle veut m'aimer, comme je n'ai encore jamais été aimée. Je ne pourrai jamais dire cela, soupire tristement Dilecta. Mais je t'assure que si, répond-il, l'amour est différent dans chaque cœur, et parce que je les aime tous, je veux l'amour de tous. Ton amour, Dilecta, n'est pas tout à fait pareil à celui des autres. Si tu ne me le donnes pas, je ne l'obtiendrai jamais de qui que ce soit. Par conséquent, tu peux bien vouloir m'aimer comme je n'ai point encore été aimée. Dites-moi comment on peut, comment moi je puis arriver à vous aimer très tendrement. Je voudrais vous donner mon amour à moi, cher roi, si vous tenez à l'avoir. Tâche d'apprendre à me connaître, prend-il. Rappelle-toi souvent combien je t'aimais et j'ai souffert pour toi. Combien je désire être près de toi ici sur le chemin de la cité et t'y rendre heureuse avec moi. Puis efforce-toi de m'imiter. Je suis bon pour tous, même pour ceux qui ne le sont pas à mon égard et qui ne m'aiment point. Il y en a beaucoup à qui j'ai donné tout ce qu'ils ont. Cependant jamais ils ne me remercient ni cherchent à me plaire. Dans la cité, tous sont comme moi. Il n'y a pas de jalousie parmi eux. Ils s'aiment les uns les autres et sont contents en voyant à quel point je les aime chacun personnellement. Quelques-uns sont plus élevés, plus beaux, plus aimés par moi que les autres parce qu'ils m'ont aimé davantage, mais tous sont tout à fait contents et heureux car il n'existe point d'égoïsme en ce beau pays où l'on ne souhaite que ce que je veux. Si tu désires suivre leur exemple, dit Lecta, tu seras comme eux et avec eux un jour. Cher roi, je tâcherai. Bientôt après, elle eut l'occasion de montrer si ses promesses étaient seulement de vaines paroles ou quelque chose de mieux. On avait fait sur elle un conte méchant où il n'y avait rien de vrai. Dilecta en fut bouleversée et furieuse et se dit en elle-même « Je sais ce que je ferai pour faire enrager cet être malfaisant. Je serai méchante moi aussi. Je raconterai ce qu'on m'a dit la semaine dernière et Dora en va bouillir. » Dilecta se frotta les mains à cette pensée. Et alors une autre pensée lui vint. Que dirait le roi? Serait-ce agir comme il le lui avait appris? Serait-ce là aimer et aider tous ceux qu'il aimait? Une grande lutte s'engagea. Dilecta désirait tant se venger et dire des paroles méchantes. Cependant, elle voulait plaire au roi. Son prince gardien lui vint en aide. Il lui dit que si les paroles de rancune étaient prononcées, il n'en résulterait pour elle qu'une petite satisfaction d'une minute peut-être, et puis un si violent chagrin. Penser qu'elle ne pouvait pas faire ce léger sacrifice pour le roi. Penser que c'était là sa reconnaissance pour celui que, après tout, elle aimait. Mais si Dilecta remportait une victoire sur elle-même, comme il en serait heureux. Elle aurait ce petit présent à lui offrir la première fois qu'il viendrait. Enfin, la bataille se termina et fut gagnée. Pour imiter le roi, qui était doux et bon, même envers ceux qui ne l'aimaient point, Dilecta serait bonne aussi. Parce qu'elle l'aimait, elle ne dirait pas les mots qui l'attristeraient. Quelle récompense elle eut la première fois qu'il vint la voir. Elle crut n'avoir jamais vu le sourire du roi aussi brillant, tandis qu'elle se tenait à la porte pour le faire entrer.